Semaine Belge, l'émission qui pique les idées reçues, mais pas à jeter aux orties.
Chers amis de Radio Diwa, bienvenue dans l'émission de Pêle-mêle Belge. Donc vous nous écoutez sur le 107.5 FM, ou si vous n'avez pas l'occasion ce vendredi à 12h10 d'être à l'antenne, vous nous écoutez en podcast sur www.rdwa.fr. Donc Pêle-mêle Belge, c'est l'émission que vous attendez tous, et nous aussi d'ailleurs dans le studio, pour vous parler des jardins, de l'environnement, des arbres, des éco-gestes, du printemps qui arrive, hein, avec ce beau soleil qui brille enfin pour nous aujourd'hui, et on en profite. Alors aujourd'hui à Technique, nous avons
Gabriel.
Bonjour Gabriel. Et les deux autres chroniqueurs fidèles au poste,
Silver,
Olivier
et moi-même
Jérôme.
Et voilà, j'allais moi-même me présenter, mais merci. Et je donne la main donc à Gabriel, qui va nous parler du jardin et de ce qu'il est possible de faire. Et peut-être aussi, tu vas nous parler d'autre chose.
Et non.
Et non. Eh ben tant pis.
Non, mais bon, déjà, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire au jardin. Et au mois d'avril, donc, pas mal de choses. Hein. On a déjà pu commencer en mars avec le beau temps qu'il a fait. Mais comme le rappelle Jérôme, il ne faut pas trop se presser non plus. Et le beau temps permet de bien démarrer. Et voilà, point ne sert de trop se presser quand il ne fait pas encore très chaud. Donc je voulais vous parler un petit peu des semis, déjà au mois d'avril. On peut semer sous abri le céleri rave, donc c'est un peu particulier, il lui faut au moins 15 degrés, donc il lui faut de la chaleur. On peut aussi semer parmi les légumes feuilles le basilic, le céleri branche et la roquette. Et la deuxième quinzaine d'avril, les chicorées frisées et les scaroles. Et sous abri aussi, donc au chaud, l'aubergine, piment, poivron, qui ont besoin, elles, d'une bonne température, au moins 25 degrés, et la tomate. Et ensuite, les courges, courgettes, concombres, potirons, melons, qui seront bien aussi sous la serre. Sous abri, alors on peut semer aussi sous abri en pleine terre ou en pépinière, en sachant que par ici, ce sera mieux sous abri s'il y a beaucoup de limaces ou que la terre est très lourde. Parmi les légumes racines, on peut semer donc les betteraves rondes précoces. Je ne sais pas si vous en connaissez. Par exemple, il y a la rouge plate d'Égypte, la tonda di Chioggia, la rouge globe, la betterave de Détroit. Mm-hmm. Et les betteraves longues, ce sera un petit peu plus tard.
Ah
et
oui.
Les chouraves et les navets aussi. Voilà. Parmi les légumes feuilles, les choux paumés rouges et verts pour la production d'automne. Alors, parmi ces choux paumés, on a des choux cabus, ce sont ceux qui ont des feuilles lisses, et les choux de Milan qui ont des feuilles cloquées ou frisées. Également, les poireaux d'été, en sachant que, bon, on peut faire des semis, on peut aussi sinon acheter des petits plants de poireaux de la taille d'un crayon fin mai, début juin. Ça peut être plus facile, voilà, si on n'a pas de serre, ou bon, si c'est pas toujours évident de les réussir, quoi, les poireaux.
C'est une culture qui est longue.
Aussi, voilà.
En fait, c'est pour ça que c'est assez compliqué, quoi. Puis ça aime l'eau, ça aime la fumure, enfin ça aime être choyé.
Voilà. Donc également, la deuxième quinzaine d'avril, les choux frisés. Donc ça, c'est les choux qui ne sont pas paumés, qui se cueillent feuille après feuille pendant l'automne et l'hiver, et qui est meilleur après les premières gelées. Ainsi que le chou-fleur pour la production d'automne. Et également, parmi les légumes feuilles, la laitue d'été. Alors, qu'est-ce qu'on peut semer en pleine terre? Moi, je sépare d'ailleurs, je disais racines, un peu les légumes racines, feuilles, fruits ou fleurs, parce que je m'intéresse aussi au calendrier lunaire. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, on peut essayer de suivre certains jours où on va plus semer ou planter des légumes de chaque catégorie. Bon, on pourra en revenir là-dessus. Donc, en pleine terre, parmi les légumes racines ou bulbes, on peut semer les carottes, les panais, les radis, le fenouil. Alors, les panais, bon, ici, ça marche assez bien, je trouve. Il faut évidemment une terre assez meuble, surtout pour la carotte. La carotte, c'est pas évident. On peut mettre du marc de café, éventuellement, pour apporter quelque chose de nourrissant et en même temps de léger par rapport à la terre lourde d'ici. Mmh.
Oui. En fait, ça a plusieurs fonctions, en fait, le marc de café ou du café tout court. C'est que ça peut aider à semer pour éviter de semer trop épais. Ça a effectivement un pouvoir allégeant, enfin d'alléger le sol momentanément au moment de la germination. Et ça a aussi un effet répulsif contre les limaçons.
Voilà.
C'est une recette de grand-mère et qui fonctionne d'ailleurs. Moi, j'ai testé à l'échelle professionnelle, effectivement, de mettre du café dans le semoir. Et avec des dégâts de limaçon quasiment inexistants, alors que les semis précédents pouvaient être anéantis à 90 ou 95%. Quoi.
Ah bah merci, voilà. Jérôme, pour ton témoignage. J'espère que ça va marcher.
Apparemment,
chez nous aussi.
Moi je pensais que ça pouvait même aussi éloigner les fourmis, parce que des fois il y a des fourmilières qui aiment bien déplacer ou venir piquer un peu les graines. Je crois qu'elles n'aiment pas trop le café non plus. Et effectivement, il y a a priori des nouvelles études qui ont prouvé que le café très fort en caféine était mortel pour la limace. Donc j'ai croisé quelqu'un qui l'a expérimenté, qui disait que ça marchait très bien. Il me disait qu'il fallait faire quasiment un kilo de café pour un litre, donc un café vraiment très très fort.
Ah oui, en
pulvérisé. Et directement, il me disait qu'il pulvérisait ça sur ses salades, et apparemment c'est mortel pour les...
D'accord.
Pour les limaces, mais ça a été découvert assez récemment apparemment.
Okay. Par contre, on craint pas de transmettre la caféine aux consommateurs ensuite ? Parce que je sais que on utilisait comme insecticide le tabac, il a été interdit parce que la nicotine était véhiculée dans le légume par ce biais-là. Voilà, donc moi ça m'interroge tout de suite à savoir si...
Je pense que la nicotine, c'est quand même beaucoup plus toxique que la caféine.
Caféine, pour quelqu'un de cardiaque, ça peut être...
La nicotine, apparemment, la dose mortelle, elle est très faible. Hein. C'est vraiment un poison de chez poison. Hein.
Exact.
À tester. On va faire tester à Olivier qui a du mal avec le café. On va pulvériser des salades et puis on verra.
Moi, j'ai un stock de café à refourguer éventuellement. Et moi, je voulais parler aussi du marc de café par rapport au compostage.
Ouais.
Parce que là, les vers raffolent du marc.
Ah.
Et ça s'est vérifié dans des lombricomposteurs. C'est impressionnant. Ils adorent ça.
Voilà.
C'est encore un bienfait du marc qu'on pourrait utiliser non plus dans le compost, mais directement sur le sol pour les semis, et qui pourrait peut-être stimuler toute une vie microbienne et de micro-organismes et d'organismes un petit peu plus gros pour nos sols.
Oui, parce que c'est un matériau très équilibré, en fait, le marc de café, par rapport au rapport carbone-azote, il est vraiment bien équilibré. Et aussi, il apporte de la potasse, donc ça peut être bien pour les légumes au moment où ils ont besoin de fructifier.
Donc jetons-nous sur les troquets du coin pour récupérer le marc de café.
Moi j'en ai déjà réservé un.
Très bien, belle initiative.
Non, ça tourne, c'est bien. C'est bien, mais ils sont très souvent vraiment sympas et à garder du marc de café hein, pour les petits jardiniers. Donc merci à eux. Alors également, un légume racine à semer en pleine terre, là je ne recommanderais pas tellement pour notre région, c'est les salsifis et la scorsonnaire. Parce que là il faut vraiment un sol sableux ou très meuble. Moi j'ai essayé parce que mon ami avait des merveilleux souvenirs de scorsonnaire étant petit, mais bon ici ça n'a pas trop fonctionné. C'est vraiment des racines très longues qui ont besoin d'un sol
profond.
Donc si vous nous écoutez, que vous êtes de la Drôme, des collines ou d'une région sableuse, c'est parfait. Mais ici pas trop. On peut aussi semer donc des engrais verts à croissance rapide, comme la facélie, la moutarde, la vesse, enfin bon, des engrais. Là, en légumes racines, je les mets en racines parce que c'est surtout pour leur action racinaire. Oui. On va les couper avant la floraison pour qu'ils décompactent un petit peu le sol avant des cultures qui viendront plus tard, en mai ou en juin. En légumes feuilles, on peut semer l'épinard, le persil, le cerfeuil. Qu'on sème pas très souvent d'ailleurs. Et mi-avril, on peut repiquer en pleine terre les choux paumés et les choux fleurs qu'on a semés pour la production d'été. En légumes fruits, on peut encore semer des pois à grains ridés, donc ce sont des pois qui supportent mieux les chaleurs que le pois à grains lisses ou ronds qu'on aura semé plus tôt. Et à partir de la mi-avril, à la fin du mois même, on peut commencer à semer une planche de haricots protégée par un voile de forçage ou un tunnel. Ils craignent le gel, donc il faut faire attention à ça. Mais on peut essayer en les protégeant bien. Ce qu'on peut planter en pleine terre, donc toujours un peu d'oignons, l'échalote si on ne l'a pas planté déjà à l'automne, pommes de terre précoces, les topinambours et les crônes. Alors, les crônes, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, vous pouvez témoigner ou pas de... Non ?
Je n'ai pas souvenir en avoir mangé.
Moi, je vois ce que c'est, je n'ai jamais goûté,
oui,
voilà.
Ouais, voilà, moi non plus, je n'ai pas goûté. Non. Mais déjà, c'est très joli.
Oui.
C'est extrêmement joli, crône du Japon. Et c'est des petits tubercules comme ça. Et bon, c'est, en fait, c'est de la famille des Lamiacées. Ça ne fait pas partie de la... C'est pas de la famille de Topinambour. Bon, c'est encore une autre famille. Donc, c'est la famille de la menthe, de la sarriette ou du thym. Et ça fait des jolies fleurs violettes. Et son nom, il tire son nom d'une ville française, donc la ville de Crône, qui est dans l'Essonne, où a été cultivé le crône pour la première fois.
D'accord.
Voilà, puisqu'il est originaire du Japon. Sinon, à planter en légumes-feuilles, ben, on peut planter maintenant, repiquer, donc en pleine terre, les laitubeurs, les batavias, les estragons. À partir de mi-avril, le céleri branche, les laitues de printemps. Et voilà, en légumes-fruits, à partir de la mi-avril, ou quand ça se réchauffe bien, on peut pailler les fraisiers avant qu'ils fleurissent, mais en ayant bien attendu que le sol soit réchauffé. Après, si on parle des fleurs, puisqu'elles sont bien importantes aussi au jardin, on peut semer des fleurs annuelles qui attirent les auxiliaires. Donc, on peut les semer en pleine terre, mais on peut aussi bien le faire sous abri si on a pas mal de limaces, c'est plus sûr. Parce que les limaces raffolent notamment de certaines plantes bénéfiques au jardin, comme la capucine, l'œillet d'Inde ou le souci. Donc, ça, ce sont des plantes qu'on peut mettre sur les planches voisinant avec les tomates, les fèves, les pois et d'autres légumes. Elles vont attirer un peu les limaces, mais aussi être répulsives par rapport à des maladies, notamment par rapport aux nématodes et autres. D'autres fleurs qui attirent les auxiliaires qu'on peut semer, donc c'est l'achillée millefeuille, le lotier corniculé, la menthe poivrée, le fenouil dont on a déjà parlé auparavant, le cléum et le coréopsis. Donc ça, ce sont des jolies fleurs et la gaillarde, ce sont des fleurs de la famille des astéracées, donc comme les topinambours, comme les marguerites tout simplement, et qui font de très jolies fleurs jaune et rouge pour la gaillarde, vraiment très décorative. Les cosmos, les lavatères, qui sont elles de la famille de la mauve et de la rose trémière, et qui font aussi des grandes plantes avec de belles fleurs blanches ou blanc-rosées. Le lin, qu'on peut mettre avec les pommes de terre aussi, là directement en pleine terre. On peut mettre aussi des pétunias, des reines marguerites, du ricin et des zinnias qui sont, eux, vraiment super décoratifs au jardin. Les zinnias, c'est magnifique.
Oui, c'est magnifique, ouais. Mmh. Oui. Bah, dis donc, toute une diversité foisonnante en ce mois d'avril.
Voilà, on peut aussi, à partir de mi-avril, on peut aussi planter les artichauts et les œilletons, là, remettre des œilletons d'artichauts et puis enlever la terre qu'on aura butée autour des pieds d'artichauts, enlever leur paillis. D'hiver, voilà, qu'on avait mis pour les protéger. Un autre conseil qu'on peut donner par rapport aux carottes, aux poireaux et aux choux, c'est qu'on peut les semer sous des voiles anti-insectes pour les protéger des altises, des mouches et de la pyrite du chou.
Oui.
Voilà.
Je voulais revenir d'ailleurs, tu fais bien, ça me permet de rebondir sur le semis de printemps de navet justement que tu préconisais tout à l'heure, à protéger justement parce que les premières chaleurs arrivent et c'est vrai qu'on a connu des mois d'avril parfois très chauds, avec des pics de chaleur en journée assez chauds et ça permet justement à l'altise ou la puce de terre qui affectionne tout particulièrement les crucifères de venir piquer les cotylédons, au stade cotylédon les navets et peut compromettre à 100% la culture si elle n'est pas suffisamment protégée. Donc au mois d'avril, pour tout ce qui est ces crucifères qui craignent éventuellement les altises et aussi éventuellement aussi les limaces, on peut encore se prémunir d'un pédicète qui est un voile de forçage qui aura aussi le rôle de voile anti-insectes. Donc il aura le double usage, c'est-à-dire de chauffer l'atmosphère et donc de réchauffer le sol plus rapidement pour permettre la croissance plus rapide du semis et de protéger en même temps des éventuels parasites au moment des pics de journée. Et bien faire attention si on utilise des voiles de forçage, de les mettre directement après le semis. C'est-à-dire on sème, on arrose, on met le voile.
Oui,
et ne pas attendre que la germination se fasse, ce qui est parfois
sinon,
une erreur.
Sinon on enferme les bestioles sous le voile.
Et voilà, c'est ça.
Oui.
On risque d'emprisonner dans le garde les bestioles dans la culture qui était au départ notre garde-manger qui devient celui des bestioles que l'on a emprisonnées. Voilà.
Et ce serait dommage.
Bien arrosé après derrière, notamment pour le navet, pour finir sur le navet. N'oubliez pas de tenir le sol bien humide par le biais de petits paillages légers, réguliers ou d'arrosage si vous avez l'accès à l'eau sans restriction. Parce que le navet de printemps craint les fortes chaleurs. C'est plutôt un légume d'automne en général. Il y a des variétés de printemps, mais ça reste des... Voilà.
Et le boule d'or, non ? C'est une variété de printemps ?
Moi, je le fais plutôt à l'automne. Il est d'une très, très bonne conservation, même en terre et même sous nos latitudes. C'est-à-dire qu'il peut passer l'hiver dehors malgré les grands froids que l'on peut connaître. On n'a pas connu ça l'hiver précédent, mais l'hiver qui vient de se finir là. Mais voilà, okay. Donc bien les arroser et les ramasser au stade jeune. Il ne faut pas les laisser trop grossir parce que les jours devenant grands, le navet n'étant pas adapté aux chaleurs et aux jours, ils deviennent rapidement durs, même à un stade que l'on pourrait dire plus qu'acceptable, même au stade moyen, il peut être dur et dans ce cas-là, ce serait décevant de faire un semis et de ne pas pouvoir les consommer. Quoi.
Et pareil pour le tenir bien frais, bien arrosé, l'altise, elle n'aime pas ça non plus, elle n'aime pas l'humidité. Donc si on tient bien frais, on éloigne l'altise.
Alors l'altise, si on n'a pas de voile, effectivement, on peut s'en prémunir en faisant ce qu'on appelle, en pratiquant ce qu'on appelle le douchage, c'est-à-dire de doucher le matin et le soir à l'eau froide, la plus froide qui soit. Alors, si je dis le matin et le soir, c'est pour éviter les chocs thermiques sur le feuillage. Le matin, la plante sort de la nuit, donc de la fraîcheur de la nuit. Donc, l'eau froide ne va pas choquer les cellules de la plante et donc ne pas générer de stress. Et pareil, le soir, si on le fait assez tard, comme là, on est encore en saison où la température peut être chaude, mais les fins de soirée sont quand même assez frais. Ça va tenir éloigné l'altise.
Il y en a qui appellent ça le bassinage aussi.
Ou bassinage, effectivement. Mmh. Tout à fait.
Eh bien, merci pour tous ces petits conseils. En travaux du jardin, on peut aussi continuer à préparer du purin d'ortie pour arroser les légumes de printemps et aussi le compost, d'ailleurs, s'il peine à fermenter. On peut l'arroser avec du purin. Et on peut passer au broyeur les résidus de taille pour qu'ils servent de paillage. Voilà, au verger, on peut sarcler le pied des arbres et pendre du compost donc à leurs pieds. Faire des greffages en fente et en couronne. On peut bouturer les groseilliers et les cassissiers. Diviser les touffes de framboisiers, donc avant de les... diviser les touffes de framboisiers, ça se divise vraiment facilement. Ça se repousse partout, c'est même un peu invasif, donc attention. À partir de mi-avril, on peut planter les glaïeuls et les dahlias, qui enchantent aussi les jardins. On peut pailler ces haies, les massifs d'arbustes. Pour les rosiers, on peut les biner, leur apporter du compost, pailler. Enfin bref, on s'occupe de tout ce qu'il y a dans le jardin. On taille aussi les buis. Et on peut diviser et planter toutes les vivaces en fait à ce moment-là. Pour les hortensias, ils sont très gourmands, donc c'est le moment de s'en occuper. On peut nettoyer le sol autour en faisant bien attention aux racines et leur apporter un demi-seau de compost par pied. On peut aussi ajouter de la poudre de corne et recouvrir également d'un paillage. Le paillage, c'est bien parce que ça conserve l'humidité et ça permet au compost éventuellement qu'on a apporté. Et si on a abîmé un petit peu la terre avant, ça permet aux micro-organismes et aux petits insectes du sol d'intégrer le compost et de le faire bien protéger sous un paillage.
Et ça limite l'enherbement.
Aussi, voilà. Ouais. Chose appréciable, surtout sous les haies. C'est pas très gênant. On peut aussi nettoyer les mares et les bassins de tous les dépôts de l'hiver. On peut peut-être déjà l'avoir fait, mais en tout cas, c'est bien utile si on a eu la chance d'avoir une mare dans son jardin. Et bien voilà, j'ai fait un petit peu le tour. On va s'arrêter là. Il
y a de quoi faire.
Oui, c'est déjà pas mal. Juste au passage, c'est aussi la saison des plantes dépuratives. Déjà depuis avant, là ça a commencé tôt cette année. Mais on peut ramasser pas mal de bourgeons, de petites plantes sauvages,
pissenlits.
Faire des cures de pissenlits, des cures dépuratives du foie, puisqu'on est dans la saison énergétique du foie. C'est le jaillissement de l'énergie. Et d'ailleurs, il y a le carême qui traditionnellement aidait un peu à se nettoyer. Alors maintenant, on ne fait pas trop ça, mais on peut au moins profiter des bienfaits spontané de la nature qui nous offre les bonnes plantes au bon moment.
Mars-avril, c'est la sève de bouleau également.
Voilà.
Moi, j'allais dire les pissenlits, c'est bon en plus.
Ah oui, en plus, c'est bon.
Moi, je fais la, la confiture de pissenlits chaque année. C'est pas du tout dépuratif.
Mais non, pas bien.
C'est excellent. Confiture de pissenlits avec des agrumes, c'est excellent ça.
Là, tu utilises les... la fleur.
Avec les fleurs, ouais. C'est une recette, c'est 365 fleurs. Allez, c'est une recette poétique.
Ah oui.
D'accord. Bien. Bon, mais tu nous feras partager ça à l'occasion.
Carrément, ouais. Et si il y a des coins dans le Diwa, on en trouve des tapis. Ça se récolte très vite en fait.
Oui, oui.
Oui, oui, il faut bien couper la racine pour couper juste la racine pour avoir l'ensemble de la rosette et que ça se conserve bien.
Mais moi, pour la confiture, c'est les fleurs.
Ouais,
c'est les fleurs, seulement les fleurs.
Oui,
que j'allais dire
fleurs,
en plus, c'est vrai que dans le Diwa, on est particulièrement bien desservi par les pissenlits parce que c'est en fleurs, on a des coins.
Il y a des coins vers Minglon, là, c'est des tapis de.
Sur Die, au Perrier, il y a des fois, c'est tapis jaune, quoi. C'est vraiment magnifique.
Et et tapis rouge aussi parfois au Perrier grâce aux coquelicots et à des champs qui ne sont pas traités et ça c'est magnifique aussi.
Oui, oui.
Mais effectivement quand la plante est là, n'attendez pas trop parce que ça passe vite et après il faut attendre un an.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça que la saison c'est la saison.
Oui, ou alors en fin d'été. Fin d'été il y a parfois un regain de floraison qui est beaucoup moins fourni qu'au printemps, c'est normal, la plante s'exprime. Au démarrage de la saison, mais on a lorsque les automnes sont traînasses un peu les savates avec l'été, on a des jolies floraisons de pissenlits.
Une deuxième floraison, effectivement.
Oui.
Bon voilà les amis, après ces travaux du jardin, je vais vous passer une petite chanson gaie et pleine d'humour pour l'arrivée du printemps, avec une auteure, compositrice, interprète québécoise qui s'appelle La Bolduc. Donc ça c'est un petit clin d'œil à Carole aussi qui a créé son duo en hommage à cette grande dame, son duo donc qui s'appelle La Bolduc. Et donc cette La Bolduc, c'est une musicienne autodidacte qui a vraiment apporté un peu d'optimisme et de bonne humeur dans un contexte de grisaille au Québec pendant la crise économique des années 20 et 1920-1930, avec des chansons qui parlaient de la vie quotidienne des petites gens et avec un parler populaire. Et donc vous allez écouter une de ses chansons là qui me plaît particulièrement, qui s'appelle Le Petit Sauvage du Nord. Donc elle mélange vraiment un refrain sur un petit sauvage du Nord et des couplets adressés à son ancien chéri dont elle se sépare. Donc c'est une chanson assez amusante.
Écoutons ça.
Le sauvage du Nord et en tirant ses vaches, il y avait des bottes aux pieds qui faisaient la grimace. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Tu m'as aimé, puis je t'ai aimé, à présent tu me quittes, tu m'aimes plus, et puis moi non plus, nous sommes quittes pour quittes. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Tu te rappelles-tu quand tu me promenais dans ton canot d'écorce? Dans ce temps-là, tu faisais ton frais, tu m'achetais sur les roches. Sur le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Toi dans ton coin, puis moi dans le mien, on se regardait sans cesse. Dans ce temps-là, t'avais de l'air fin, aujourd'hui t'as de l'air bête. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, et puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le mouchoir que tu m'avais donné, tiens, mets-le dans ta poche. Retire-toi auprès de moi, que le sorcier t'emporte. Sur le bord de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le casse de plumes que je t'avais prêté, t'as besoin de leur mettre. Si tu veux pas que je te lance, t'es avec une flèche. Tire la
le bord de la rivière. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint
Voilà, bah Silver, maintenant c'est à toi. De quel légume est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, moi je vais vous parler d'un légume qui est un peu emblématique du jardin et du printemps. C'est, je vais vous parler du radis.
Mmh.
Eh oui, bien au goût du jour.
Hein, je ne vais pas vous faire une chronique qui ne vaut pas un radis, j'espère. Je vais essayer de faire un truc un peu qui se tient. Alors,
un légume à croquer.
Alors, ce qui est, j'ai fait mes petites recherches comme chaque mois sur un légume. Donc là, sur le radis. Ce qui est intéressant à savoir sur le radis, c'est que déjà le radis qu'on connaît aujourd'hui blanc et rose, il est assez récent en fait. Hein. Il date seulement du XVIIe-XVIIIe siècle et on le doit encore une fois aux Italiens, qui, avec des décennies d'hybridation complexe entre différentes variétés de radis, ont réussi à nous faire ce petit radis à la fois sucré et piquant qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'autrefois, et depuis la nuit des temps, on consommait déjà du radis, notamment des radis noirs et des gros radis d'hiver, qu'on consommait à l'époque surtout crus, et dont on disait qu'ils étaient âcres et que leur peau était parfois plus épaisse que celle de certains arbres. Donc on imagine qu'à l'époque, c'était pas le petit radis doux d'aujourd'hui.
Ça devait avoir de bonnes dents.
Oui.
Ah, ça devait être un régal.
C'était la nourriture des vilains au temps des Romains et du Moyen-Âge.
D'accord.
C'était
les pauvres.
Et ouais, ces gros radis se mangeaient crus et ils avaient la mauvaise réputation à l'époque de provoquer flatulence et rot à tout va. Et les petits médecins de l'époque conseillaient de les manger avec des olives bien mûres pour essayer d'atténuer les effets indésirables.
D'accord.
On a même retrouvé sur une lampe antique de l'époque gallo-romaine, sur laquelle était écrit en latin « Repas du pauvre, du pain, du vin, des radis ».
Ah, des olives. Non, en plus, ils n'avaient pas de quoi se mettre des olives, c'est quand même triste.
Et au XXe siècle, il y avait un autre
rattrapage,
mais qui était plutôt de l'ordre publicitaire, celui-là.
Ah, voilà, j'y avais pensé aussi. Mais effectivement, donc, les radis de jadis, tout comme les navets d'ailleurs, c'était une nourriture de base du paysan de l'époque. Et d'ailleurs, le navet, il a été petit à petit remplacé par la pomme de terre. Ça, on en avait parlé un petit peu dans une émission précédente. Et donc à partir du 17e, on a vu se développer donc ce qu'on appelle maintenant le radis de tous les mois. Donc c'est-à-dire un petit radis rose à bout blanc ou rouge à bout blanc qui pousse en quelques semaines et dont on se régale au printemps en le dégustant avec une bonne tartine de beurre salé à l'apéritif. Et ce petit radis donc doux et acidulé, parfois un petit peu poivré, il a très vite remplacé le gros radis piquant d'autrefois. Et aujourd'hui, on mange encore un petit peu de radis noir, mais disons qu'on mange surtout de ces petits radis. Donc il nous reste surtout ce qu'on appelle le radis long, blanc et rose, et puis le radis rond.
Écarlate.
Même si c'est toujours pareil, il existe une grande diversité variétale. Hein. Il y a des radis jaunes, des radis violets, des radis blancs, des radis un peu de toutes les formes. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu dans les semenciers qui proposent des variétés anciennes. On peut se faire plaisir avec des radis de toutes les couleurs. Dans ce qu'on appelle les gros radis, aujourd'hui il nous reste surtout le radis noir. Mais dans les gros radis, il y a encore toute une diversité à aller chercher. Il faut aimer un petit peu le piquant.
Il y a les radis, les radis d'hiver, les radis roses. Moi je ne sais plus, j'avais mis violet, je crois, violet de Gournay, rose, et puis noir de Hokkaido, enfin du Japon, là, comme ça, il y a des
Et
des
tout
radis,
à fait, ça fait la transition, effectivement, c'est au 19e siècle que les jardiniers européens ont découvert les radis asiatiques.
Ah.
Parce que le radis, il s'est développé d'une part en Europe, et puis d'une autre part en Asie, et alors qu'en Asie, on a récupéré notamment le radis rose de Chine, qui a été rapporté par des missionnaires en 1840. Et puis le spectaculaire radis daikon, qui peut faire dans des bonnes conditions jusqu'à 1 mètre de long et qui reste doux et sucré.
Wow. C'est un radis blanc ?
C'est un radis
blanc. C'est ça,
blanc
à la police.
Ouais.
D'accord.
Et voilà, ça s'est arrivé sur le tard. Mais c'est vrai que du coup, les Japonais et les Asiatiques ont amené toute une diversité aussi de variétés de radis qui étaient inconnues chez nous.
Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas très vieux en fin de compte, c'est juste le 19e siècle, donc c'est vraiment tout proche tout proche de nous, quoi.
Et ouais. Mmh. Et oui. Pour parler un petit peu de la culture du radis en France au niveau agricole, alors dans mes petites recherches, ce que j'ai pu trouver, c'est que la France, en fait, c'est un gros producteur de radis. Les maraîchers français cultivent en moyenne 45 000 tonnes de radis par an.
Wow.
Et ça représente quand même 40% de la production européenne, ce qui en fait un des plus gros producteurs européens avec les Pays-Bas.
Ah oui.
Et il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le radis il est cultivé sous serre de manière automatisée, quasiment tout automatisée, avec semis de précision, arrosage automatique et même bottelage automatique, parce que le radis, il est facile à faire pousser, mais le gros travail du maraîcher ou du jardinier, ça se situe au niveau du bottelage, parce que faire une botte de radis, ça demande un peu de manutention. Mmh. Jérôme, toi qui as été maraîcher, est-ce que tu as des petits souvenirs de bottelage ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que faire les bottes, c'est ce qui demande du temps, de la précision dans le geste aussi, puisque le radis qui est bien souvent proposé à la vente est un radis de serre, donc que l'on active en termes de croissance, c'est-à-dire que sa croissance est plus rapide, mais il en ressort une certaine fragilité. Donc il faut quand même être assez habile de ses doigts pour ne pas en casser une trop grande proportion et arriver à sortir la quantité qu'il faut. C'est synonyme de main d'œuvre, parce que ça prend du temps de le récolter. Et voilà. Et puis pour une ordre d'idée, pour donner un peu une idée au niveau professionnel, si on ramasse à la main, en tout cas, pour être rentable, il faut arriver à sortir 30 bottes à l'heure. Donc il faut quand même être assez rapide. Et voilà. Et quand on n'atteint pas, en maraîchage notamment, quand on n'atteint pas un seuil de productivité moyen ou minimal, la marge bénéficiaire est vite rabotée, quoi. Hein. Ça coûte vite très cher si on n'est pas assez rapide, quoi.
Voilà. Donc peut-être quand vous achèterez votre petite botte de radis sur le marché, vous aurez une petite pensée pour le maraîcher qui a passé du temps à les récolter un par un et à faire sa petite botte.
Le prix n'est pas calculé au hasard, pas toujours en tout cas. En termes de variété, il y a des radis aussi, des radis longs d'hiver qui sont, je ne sais plus le nom de la variété, mais qui sont d'une part très bons et assez rigolos, c'est-à-dire qu'ils sont blancs de chair extérieure et violets à l'intérieur. Voilà, donc ça fait des jolies de jolies choses.
Ah, ça voilà, pourrait faire des belles décos dans l'assiette là.
Et ça fait des belles décos. Ouais, certains restaurateurs sont friands de ce genre de radis justement par rapport à ça, pour la déco, pour la présentation de l'assiette de crudité.
Oui.
Voilà.
Oui, il y a plein de jolis légumes, ça, pour les décos. Juste aussi, en termes de semis, moi aussi, j'ai vu des radis avec les carottes en même temps. Comme ça, ils poussent plus vite. On peut les ramasser avant la levée des carottes. Ça marque les rangs.
Exactement.
Ouais, voilà. Ça marque bien les rangs. Ça aide... ça aide justement pour l'éventuel dépressage ou l'éclaircissage de la culture de carottes. Ça aide aussi à semer peut-être un peu moins de rue. C'est vrai que ça fait des petits radis à croquer, et ça aide aussi au désherbage, parce que le radis va lever avant la carotte, et s'il y a des petites herbes qui se développent, la carotte, lorsqu'elle va arriver, ben les petites herbes auront déjà une certaine taille, et dans ce cas-là, on peut les enlever prématurément, quoi. Voilà.
Exactement, vous faites un peu la transition avec la dernière petite partie de ma chronique, donc sur la culture du radis.
On est une équipe formidable, quoi.
Et ouais. Et bah effectivement, donc le radis, ça, c'est une plante qui est très facile à cultiver. Quel jardinier en herbe n'a pas fait un rang de radis dans son jardin ? On amène souvent les enfants aussi faire ça au jardin, parce que c'est facile à faire et ça pousse très vite. C'est une plante phare des potagers familiaux. Alors très vite, la culture de radis, pour le réussir, alors ça se sème à peu près à 2 cm de profondeur. Pour les radis longs, les radis ronds, on les sème très peu profond, parce que le radis va se poser sur le sol, donc on les sème à peine enterrés. Et puis, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, avec le navet, il faut, pour réussir bien ces radis, garder toujours un sol frais et humide, pour deux raisons. Hein. Il y a déjà d'une part éloigner l'altise, on en parlait tout à l'heure, et puis aussi le radis, il a ses racines qui sont en surface, donc s'il arrive à manquer d'eau, il a un réflexe, le radis, c'est qu'il va devenir piquant et puis il va devenir creux petit à petit. Donc si on veut garder des petits radis doux et bien croquants, il faut leur donner de l'eau. Si vous semez des radis et que vous partez en vacances pendant 3 semaines et que vous revenez, on ne va pas s'étonner si vous avez des radis qui sont tout piquants.
Ou tout manger.
Et voilà.
Ouais. Et on peut récolter éventuellement les graines.
Ah, ça c'est plus long. Récolter la graine. Ah bah oui, le cycle complet du radis est beaucoup plus long que le cycle de production de la racine. tel qu'on le connaît. Ah oui, ça c'est.
Oui, il faut le temps que ça, que, oui. que les réserves de la racine passent dans, oui. passent dans la tige.
Mais en tout cas, il y a
le temps de montaison, le temps de floraison, de pollinisation, de fermeture de la. De la silique, la production de la graine après, oui, non, c'est là on rentre, ça serait un sujet c'est intéressant d'ailleurs, ce serait intéressant, oui, de faire un petit reportage.
Les cycles végétatifs.
Protection de graines, oui, production de graines, oui, bien sûr, et les cycles végétatifs complets. Parce que là, on voit un cycle végétatif complet, on part d'une graine pour récolter une graine, donc c'est quand même.
Oui, c'est ça qui est génial.
Et oui.
En plus, bon, ça se fait, hein, la semence de radis, c'est pas une des plus compliquées.
Non, c'est vrai.
Donc je disais, oui, le radis, plus il manque d'eau, plus il devient piquant. Donc après, c'est à chacun ses goûts. Hein. Si vous voulez un radis piquant, bah, l'arrosez pas trop. Moi, perso, j'aime bien les radis assez doux. Donc un petit coup d'arrosoir tous les matins ou tous les deux jours. Et puis, 3-4 semaines après, on a ses radis. Ouais. La culture du radis, c'est un champion de vitesse. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on est débutant au jardin ou alors même avec des enfants, c'est qu'on sème et puis on a le résultat très rapidement. Ça se germe en 3 à 5 jours. Mm-hmm. C'est vraiment un des records de vitesse. On peut le consommer après 25-30 jours de culture, même s'il y a un radis qui s'appelle, la variété s'appelle radis de 18 jours. Ouais. Bon, on a du mal à les avoir en 18 jours quand même.
Mais ça dépend à partir de quel jour on commence à compter, quoi.
Okay.
Mais c'est vrai qu'en 18 jours, moi, et d'autres collègues confirmeront ce que je vais dire, j'ai jamais récolté un radis au bout
c'est
de 18
un,
jours.
C'est un peu short, mais bon, on va dire en un petit mois, on arrive à manger son radis.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est une culture rapide. Et puis juste pour revenir très vite sur ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, effectivement, c'est une culture qui va vite et que du coup, on peut associer facilement au jardin. Donc tout à l'heure, tu parlais de le semer en même temps que les carottes. C'est une super bonne idée parce qu'on on économise de la place puisqu'on vient semer en même temps les deux. Et bah, du coup, on récolte le radis juste au moment où la carotte, qui elle met 3 semaines à lever, commence seulement à lever. Donc on économise de la place. Et puis effectivement, ça marque le rang, ça permet de anticiper le désherbage.
De maintenir l'humidité pour que la carotte puisse germer aussi.
Aussi.
Parce qu'on arrose le radis dans le but de le récolter comme il a besoin d'eau. Ben voilà, ça permet à la graine de carotte de rester humide et de germer dans les bonnes conditions.
Tout à fait. Et puis, donc le radis, en général, on dit ne pas hésiter à en semer tous les 15 jours. Parce que du coup, ça va vite, mais il faut aussi les récolter vite parce que... Ils ont un moment où ils sont bons à manger et puis ça va assez vite. Hein. Une semaine, 10 jours, après, ils deviennent creux, ils deviennent plus consommables. Donc, on ressemait souvent et puis ne pas hésiter à en mettre dans les petits trous du jardin. On peut en mettre entre les rangées de salade, entre les rangées de n'importe quoi quasiment. On peut, quand on a un petit potager, c'est pas la peine de faire un carré de radis, on peut venir les glisser entre les rangs de plein d'autres légumes.
Et lorsqu'il fait très chaud, bien de privilégier les coins qui sont les plus ombragés. Parce que le radis n'aime pas les fortes chaleurs et c'est là où il devient très fort en goût. En général, on fait du poivre ou du piment à ces époques-là. Mais si on a des coins ombragés par des arbres, des arbustes, une cabane, on peut les mettre à ces endroits-là. Et je voulais dire aussi, sur la fin de culture, en général, le radis, effectivement, bon, il continue à grossir et il devient plus fort parce que comme il continue à grossir, les besoins en eau sont plus importants. Mais bien souvent, on apporte la même quantité d'eau tout au long de la culture, ils deviennent plus forts. Et là, il y a une petite astuce pour continuer à les consommer, c'est que, en fait, c'est l'épiderme du radis qui est fort et non pas la racine. Donc, on va le manger un peu moins vite, mais il suffit de l'éplucher. Et là, on retrouve la douceur du radis, ce qui permet de consommer les derniers radis qui n'étaient pas assez gros au moment du début de la récolte, mais qui ont fini par grossir par la fin. Et donc, voilà, ça permet d'aller jusqu'au bout de la culture et de tout consommer ce qu'on a semé.
Et juste pour terminer, une petite recette rapide mais qui est inspirante, c'est la fameuse soupe de fan de radis. Parce qu'effectivement, donc, la fan du radis, c'est-à-dire les feuilles du radis, sont aussi tout à fait consommables. Donc la recette de la soupe de fan de radis. Alors, vous prenez les fans de 2 bottes de radis. Il vous faut 2 pommes de terre, un peu de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, sel et poivre. La recette, elle est très simple.
Rien que ça donne faim.
Dans une casserole, on prend ces fans qu'on a lavés et hachés grossièrement. On les fait revenir un petit peu à l'étuvée avec les pommes de terre qu'on ajoute juste après coupées en morceaux. On ajoute là-dessus 1 litre d'eau, 20 minutes de cuisson. Et puis après, on mixe et puis on agrémente avec un peu de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, sel et poivre. Et c'est prêt. Voilà, mais il n'y a plus qu'à se lancer, il n'y a plus qu'à aller chercher sa serfouette et son râteau, et puis à semer un rang de radis. On va s'écouter une petite coupure musicale, c'est une petite chanson, vous verrez, qui parle des simplicités de la vie. Ça s'appelle « Des œufs, du lard et des radis ».
Je dormais seul sous ma casquette. Toi, tu cherchais une cigarette. Et c'est depuis qu'on marche à deux. Les filles cueillies comme des pâquerettes. Les gens pigés sans interprète. C'est merveilleux. On prend les routes secondaires. On se lave les dents dans les rivières. On vit au rythme du soleil. Et quand il plonge dans les phares, nous on s'aménage un coin de gare pour le sommeil. La nuit nous semble bien plus belle quand on en a plein la gamelle. Comme ce soir, oui, justement. Des œufs, du lard, quelques radis. Comment ne pas leur dire merci aux paysans. C'est drôle, ce soir il fait plus froid. Quand tu penses trop, toi tu causes pas. Tu sais déjà ce que j'ai à te dire. Prends la bouteille, c'est bien ton tour. Entre copains, faut boire toujours. Quand l'un se tire, courir le sac en bandoulière, à saute-mouton sur les frontières. Bien entendu, c'est formidable, mais cette liberté, mon frère, je voudrais l'écrire dans la pierre, pas sur du sable. Si je te quitte à ce carrefour, si je n'attends même pas le jour, c'est pas la peur ou la faiblesse. À toi le rythme des saisons, à moi le rythme de l'action. Allez, je te laisse.
Donc ça, c'était la chanson d'Herbert Pagani que nous a présentée Silver. Et nous sommes toujours sur Radio Diwa. C'est l'émission Pêle-mêle-bêche et Olivier va nous parler.
Je vais vous parler des orties, de la guerre de l'ortie et puis bah, les fameuses PNPP, les produits naturels peu préoccupants.
Encore un super cible.
Ah voilà, bon, bah, il faut s'y habituer. Hein. C'est par rapport à un petit communiqué de presse qui était passé par l'association Aspro PNPP, qui fait d'ailleurs un bon boulot, je dirais, de promotion des produits naturels peu préoccupants, dont les purins d'ortie, qu'on les appelle comme ça communément. Mais je voudrais faire un petit rectificatif, c'est que l'appellation purin est un petit peu erronée. On devrait plutôt parler d'extrait fermenté de plantes, parce qu'un purin, si on le considère comme quelque chose de nauséabond, en fait, il est inefficace. On n'a pas vraiment respecté une recette propre pour le jardin, mais plutôt, c'est d'envisager une infusion, une macération donc à froid d'une plante notamment ici l'ortie, pendant plusieurs jours, et qui va développer une fermentation. Le brassage de l'eau, de la matière est très importante pour insérer à nouveau de l'oxygène dans le mélange. Ce sont les bactéries qui vont manger, dégrader et diffuser une partie des éléments du complexe chimique présent dans les feuilles. Et on obtient un produit qui sera utilisable, mais qui n'est pas si nauséabond que ça. Alors si vous avez quelque chose qui est vraiment puant, exprès. Mmh. Donc c'est vraiment pas l'extrait fermenté qui convient, mais vraiment là on obtient un purin d'ortie, chose qui a été connue par nos grands-mères et grands-pères autrefois, mais ça ne doit pas sentir justement. Si ça sent mauvais, c'est qu'on a au contraire une putréfaction, une phase anaérobie, donc développement d'autres bactéries, d'autres ferments, et on veut pas ce genre de choses. Au contraire, il faut vraiment quelque chose qui soit plutôt agréable à épandre sur nos graines, nos légumes et nos plantes.
Et donc, ça n'a vraiment pas du tout d'odeur, ou il y a quand même une odeur particulière de ces préparations ?
Il y a une petite odeur, on en parlait tout à l'heure avec Silver. L'ortie contient beaucoup d'azote, notamment. Oui. Et d'ailleurs, il faut aussi faire attention sur les semis et sur les pulvérisations foliaires. Ça peut attirer les pucerons. Hein, c'est l'azote qui attire les pucerons, et on le voit notamment dans les premiers légumes qui poussent au jardin, notamment les fèves, les pois. Les pucerons sont vraiment acharnés sur ces petites légumineuses bien tendres, bien juteuses, et les légumineuses, on les connaît bien pour ceci, elles sont très riches en azote. Donc en fait, il y a une petite odeur d'urée, d'urine qu'on pourrait ressentir éventuellement. Hein, je donne une odeur de référence, mais c'est tout à fait sain. Si on part sur quelque chose où on n'arrive pas à mettre le nez dessus, c'est pas la peine.
C'est
inutilisable
bon.
Pour le jardin. Mmh. Voilà, ça c'est une petite rectification. Alors je voudrais vous parler d'un fait qui se passe, là c'est vraiment d'actualité. Il y a un amendement de loi qui a été proposé. On a entendu parler, je pense, tous autour de nous depuis 2006 de la guerre de l'ortie, c'est-à-savoir la réglementation viserait à interdire l'utilisation, la production et la commercialisation d'extraits fermentés de plantes. Et l'ortie vraiment a été le symbole de cette guerre. Il est question aujourd'hui de remettre sur le tapis cette situation. Autrement dit, l'ortie serait, comme tous les produits naturels peu préoccupants, classé comme produit phytopharmaceutique, c'est-à-dire un produit phytosanitaire, hein, comme un pesticide, donc soumis à une réglementation bien stricte, un cahier des charges, une autorisation, c'est ce qu'on appelle une AMM, autorisation de mise sur le marché, et qui coûte extrêmement cher. Donc voilà, ce sont les gros industriels qui ont la capacité de pouvoir développer ce genre de procédure qui coûte au bas mot au minimum 40 000 euros par produit. Et on entend bien que des petits producteurs de plantes, d'extraits fermentés de plantes, ne pourraient pas accéder à ce genre de choses.
Mais c'est sûr.
Alors, bien vu que l'utilisation même d'extraits fermentés de plantes au jardin, il n'y a pas que l'ortie, il peut y avoir la consoude, il peut y avoir la prêle, il peut y avoir le réfort, il peut y avoir le sureau, il y a une multitude de plantes qui sont utilisables pour le jardin, avec des fonctions, des utilisations bien spécifiques, que ce soit répulsif pour certains insectes, mais aussi pour fortifier la plante, la stimuler, hein, ce qu'on appelle un effet éliciteur. Tous ces produits, et pas que, parce qu'il y a également le vinaigre, il y a également l'argile, il y a d'autres produits naturels qu'on pourrait utiliser au jardin, voire même à la maison, qui sont sur la sellette. C'est-à-dire, comment se fait-il que des produits qui sont utilisés depuis des générations et des générations, aujourd'hui, soient soumis à une dérogation, une réglementation de mise sur le marché, alors qu'on peut se les procurer très facilement et on peut les produire soi-même à la maison ou au jardin? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a toujours du lobbying, il y a toujours de l'argent derrière. Et qui est-ce qui est un petit peu à l'origine des lois et de l'évolution des lois? Parfois, ce sont des industriels qui se regroupent sous une structure parfois peu connue, qui payent grassement des consultants et qui vont faciliter, je dirais, des cahiers des charges pour les proposer après au ministère. Les ministères n'ont que ce genre de textes à se mettre sur la dent et se disent, bah, tiens, pourquoi pas. Et on se dit, j'entends bien les cols blancs qui sont dans nos administrations. Ah bah oui, c'est très intéressant. Donc en plus, ça va faire de l'emploi, ça fait du chiffre d'affaires et ça fait tourner l'économie. Donc on se retrouve dans une situation qui est un petit peu paradoxale. Et aujourd'hui, il faut être très vigilant parce que du mois d'avril jusqu'au mois de juin, rien n'est perdu. On peut encore, manifester sa désapprobation par rapport à un texte de loi qui a été proposé, qui a été retiré à l'Assemblée nationale, qui visait finalement à extraire les PNPP, les extraits fermentés de plantes et autres produits naturels, de la réglementation des pesticides pour faciliter à la fois l'utilisation, mais aussi la production et la commercialisation. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, contrairement à l'Allemagne ou l'Espagne, où c'est totalement facilité de production et de commercialisation pour ce genre de produits. On se retrouve dans une situation en France où il est impossible de pouvoir commercialiser, où ceux qui envisagent de commercialiser ne savent pas s'ils vont mettre la clé sous la porte par rapport à leur petite entreprise, que ce soit une diversification d'une ferme dans la production d'extraits fermentés de plantes ou une entreprise à part entière qui pourrait en fabriquer. Là, les lobbies, les multinationales, par pression auprès des administrations, arrivent à gagner du temps pour organiser en interne leur marché, leur production. Aujourd'hui, on constate, et là c'est une petite info que j'avais eue, que j'avais pu lire dans une brève horticole et arboricole, Bayer, une grosse société qu'on connaît. Il y a aussi Monsanto.
Tiens donc.
Ah ouais, tiens, c'est surprenant. Il y a, je vais citer aussi BASF, donc encore un Allemand, qui rachète de nombreuses sociétés aux États-Unis ou à travers le monde qui sont spécialistes du biocontrôle. Alors, le biocontrôle, c'est quoi ? C'est surtout, c'est une catégorie qui concerne soit des produits naturels, soit des organismes vivants qui vont lutter contre d'autres organismes vivants, des maladies, par exemple, ou des ravageurs, mais
c'est
d'une façon naturelle.
C'est ce qu'on appelle la lutte biologique.
C'est ce qu'on appelle la lutte biologique, autrement dit. Donc, il y a des petites boîtes qui produisent à grande échelle des coccinelles, qui produisent différents insectes qui vont lutter. Voilà, les trichogrammes, justement. Il y a une multitude d'insectes qui sont utilisés aujourd'hui en maraîchage, sous abri, parce que c'est beaucoup plus facile à maîtriser, à contrôler, pour pas qu'il y ait une dispersion. Mais par exemple, dans les champs de maïs, il est tout à fait envisageable d'utiliser le trichogramme pour lutter contre la pyrale du maïs. Voilà, donc c'est un insecte, un lépidoptère, un papillon, qui va détruire les épis. Ces multinationales sont en train de tisser un nouveau réseau de façon à avoir le contrôle de petites entreprises internationales, voire françaises, parce qu'en France, on a aussi quand même un pôle de compétences dans ce domaine. Il est à craindre aujourd'hui que les grands des pesticides, les grands de la semence génétiquement modifiée, puissent mettre la main sur tout ce qui pourrait nous servir au quotidien dans l'agriculture biologique, dans l'agroécologie, dans le jardinage, dans une forme de jardinage durable.
Ce qui sont justement des alternatives, normalement.
Voilà, exactement. Alors, le fait de gagner du temps, ça leur permet de structurer leur stratégie et de mettre la main sur les petites boîtes qui proposent justement beaucoup d'innovations, contrairement aux grosses boîtes qui ne proposent pas beaucoup d'innovations. Il y a des craintes à l'heure actuelle de ce côté-là. Il y avait une étude qui est très intéressante, qui démontre qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit bio et lutte biologique représente un marché mondial de 2,3 milliards de dollars. Et ça fait 1,6 milliard d'euros. Et ça veut dire que là, il y a quand même une manne à prendre pour les grosses firmes. Donc restons vigilants. Cet amendement a été refusé malheureusement en première lecture à l'Assemblée nationale. On se demande pourquoi. On connaît tous la réponse en fait. Et là voilà, je dirais que tannons un petit peu nos élus, tannons, et c'est vraiment encore le moment. Là, les élections municipales sont passées. Il y a des stratégies politiques au niveau local, mais tannons à l'heure actuelle, nos élus, tannons nos députés par rapport à tout ceci. Il ne faut pas laisser passer. Les savoir-faire populaires sont très importants. gardons une forme d'autonomie et laissons aussi les entreprises, les petites entreprises, les petites fermes, proposer des alternatives et les diffuser. Parce que voilà, le petit jardinier, il aura peut-être la possibilité de faire ses extraits fermentés de plantes, mais pensons aussi à l'agriculteur qui n'aura peut-être pas le temps de produire ses extraits de plantes pour les superficies qu'il voudra protéger. Et il y aura peut-être des entreprises qui permettront de développer des produits naturels, qui seront commercialisables et qui profiteront finalement à l'agriculture. Retenons que l'agriculture en France utilise 90% des pesticides. Les jardiniers amateurs, dans le potager ou dans les jardins, dans les espaces verts, ça ne représente aujourd'hui que 10%. C'est trois fois rien. Aujourd'hui, les 10%, ça n'intéresse pas les multinationales.
Ben non.
Ce qui les intéresse, c'est les 90%. On s'entend bien.
Mais aussi,
si le marché, voilà, si le marché est inondé de produits issus de ces multinationales, déjà on pourrait déjà avoir un doute vis-à-vis de la qualité des recettes, mais ne perdons pas nos savoir-faire.
Puis voilà. C'est aussi le plan économique quand même.
Que derrière, il y a justement cette privation d'accès à la libre utilisation de ce qui fait partie de notre patrimoine commun, quoi. C'est ça qui se cache derrière, et c'est ça qui est scandaleux, au même titre que ce que tu annonces là, c'est du même... De même envergure que la lutte contre pour la préservation de du libre accès à ces semences, qu'elles soient végétales ou animales, et voilà, entre autres, quoi.
C'est la privatisation et le brevetage du vivant.
Exactement,
à tous les niveaux,
voilà. Et c'est très proche.
Ce qui est intéressant, là, c'est une petite anecdote qui n'est pas si ancienne que ça. En Inde, une firme américaine a voulu breveter l'huile de neem.
Le neem.
C'est une substance qui pas à confondre avec
les neems.
Ouais, c'est pas les neems. Non, c'est pas en Inde, alors
on presse des neems.
C'est pas en Inde que ça se mange, ça, c'est plutôt.
C'est en Asie, un peu plus loin.
Neem oil.
L'huile de neem, pour simplifier, c'est une huile qui est utilisée couramment en Inde, et autant pour le soin du corps que pour la protection des plantes. Donc c'est issu d'un arbre et on extrait l'azadiractine. Et en fait cette substance a voulu être brevetée par cette firme américaine. La population indienne s'est offusquée de cette confiscation de savoir populaire, parce que qui dit brevetage dit après royalties. Voilà, donc il était hors de question pour les Indiens de payer quoi que ce soit. La firme a été éjectée carrément de cette convoitise. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Je pense qu'ensemble, si il y a une prise de conscience et si on pétitionne véritablement pour montrer notre désaccord auprès de nos députés, auprès du ministre, on aura toujours cette possibilité. Et regardons ce qui se passe en Allemagne et en Espagne. Ils ont réussi à intégrer dans leur texte cette possibilité d'utiliser des fortifiants pour les plantes. Donc il suffit de rajouter une catégorie qui soit hors pesticides. Voilà. C'était un petit peu la news que je voulais transmettre. Le purin d'ortie, c'est vrai qu'on l'utilise au jardin. C'est les moments aujourd'hui où on va les utiliser. Les feuilles d'ortie, on les utilise pour les semis, pour les plantations, les repiquages. Donc après, c'est libre à vous d'exprimer vos propres expériences. Et je sais pas si Jérôme, toi par exemple, tu l'as utilisé,
Moi, j'ai utilisé le purin d'ortie, mais le début de ta chronique m'a fait prendre conscience que j'utilisais ça dans des mauvaises conditions, quoi. Parce que, justement, il était, malgré les brassages successifs que je m'employais à faire, eh bien, je me suis retrouvé avec, au bout de quelques jours, avec un produit qui avait une odeur nauséabonde, enfin, très forte. Donc ça veut dire que, eh bien, j'utilisais un produit qui n'était pas adapté, quoi. Enfin, qui, en tous les cas, n'avait pas été concrétiser dans les bonnes conditions, quoi.
Ça veut dire, c'est vrai que c'est tout un savoir-faire, quoi, finalement.
Oui. C'est à la fois simple et il y a une
compliqué.
Recette, quoi. Ouais,
ouais. Simple et compliqué. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais à ce sujet-là, au niveau de l'utilisation en agriculture, tu parlais de l'agriculteur, je ne sais pas comment tu as dit, mais qui n'avait pas le temps de faire ces préparations.
Oui.
Mais c'est peut-être pas qu'une histoire de temps, c'est une histoire de compétences, c'est une histoire d'envie de se former aussi à le faire, d'acquérir éventuellement le matériel adapté pour le faire. Et donc, l'agriculteur, bien souvent, face à des nouveautés qui demandent des compétences et des moyens à mettre en œuvre, eh bien, préfère avoir un prestataire en face de lui qui lui apporte conseils et le produit qui va avec, surtout dans cette matière-là, parce que bon nombre d'agriculteurs sont en agriculture, on va dire, conventionnelle, mais si on leur apporte un produit issu de la nature, transformé par la main de l'homme, mais qui reste un produit naturel et qui va pouvoir remplacer un produit coûteux qui est le pesticide, eh bien, il le prendra. Mais il manque, par contre, de à la fois de temps et de temps pour se former et voilà et de
et peut-être il faut avoir le matériel qui va avec.
Il faut le matériel qui va avec.
Voilà, moi personnellement, c'est vraiment en 2006 lorsque j'ai fait un stage chez Éric Petiot, comment réaliser des extraits fermentés. Moi je me disais mais c'est un truc tout con, tout simple, c'est à la portée de tous. Et ben j'ai vraiment appris pendant ce stage comment réaliser un bon extrait fermenté. Et aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure en début d'émission qui pique les idées reçues, c'est-à-dire que oui, il faut mettre un petit peu un holà par rapport à la simplicité que l'on peut considérer sur une chose qui paraît toute bête, mais en fin de compte, si on ne maîtrise pas les bases, eh ben on foire totalement ce qu'on avait envie de faire initialement. Et ton témoignage, Jérôme, il est très intéressant parce que ce n'est pas un cas isolé. C'est vraiment pas un cas isolé.
Ah, tu me rassures.
Le cas du compostage, c'est exactement
compost
la même chose.
Exactement, ouais.
C'est très simple, mais si on connaît pas les principes de base, je dirais faire un taboulé, ça paraît très
même
simple.
Même la cuisine,
mais on
j'allais
peut aussi
dire
le louper.
Ah oui, non,
on peut le louper.
Ouais.
C'est les trucs.
Et voilà, il y a des choses. Et ce sont des choses pratiques, ce sont pas des choses théoriques. Et quand on a goûté, quand on a touché, quand on a malaxé la matière, eh ben on retient. C'est tout bête, mais l'homme a besoin de toucher, d'expérimenter et pas d'intégrer uniquement d'un point de vue conceptuel.
Ouais, mais bien sûr. Ouais.
Voilà. Oui, puis tu parles d'Éric Petiot. C'est vrai qu'Éric Petiot, moi je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Il repart du savoir populaire et puis maintenant c'est carrément des expérimentations qui sont avec les technologies d'aujourd'hui où il va essayer de travailler sur ces purins qui sortent du savoir populaire et il va affiner la technique et il fait des tests sur des plantes en permanence et du coup ça devient de la science de notre temps avec des produits naturels. Tu parlais de 2006, ce qui s'est passé en 2006, effectivement, ils étaient partis déjà pour faire quelque chose de très grave parce qu'Éric Petiot, ce qui s'est passé en 2006, c'est qu'il y a des gendarmes qui sont arrivés chez lui et on parlait à cette époque-là de diffusion de savoir. Donc on voulait complètement confisquer toutes ces études et les mettre sous clé. C'était ce qui était en jeu à l'époque, c'était on n'a pas le droit de communiquer la recette du purin d'ortie.
Oui.
Et ça a donné aujourd'hui l'amendement purin d'ortie qui vaut ce qu'il vaut parce qu'effectivement il y a une recette qui a été pondue et qui correspond.
C'est une mauvaise, et c'est une mauvaise
apparemment,
recette.
C'est une mauvaise recette qui est adaptée pour des gros, pour faire des grosses quantités. Et du coup, on peut le vendre seulement sous cette recette-là. Et puis, juste pour finir, moi, pour les jardiniers, effectivement, pour les agriculteurs, c'est du boulot de faire des grosses quantités de purin d'ortie. Mais pour un jardinier, franchement, on va pas s'attarder sur la recette maintenant, mais faire 10 litres de purin d'ortie. C'est super rapide à faire. Avec un seau et une passoire de cuisine, on le fait. Si on va l'acheter à Gamme Vert, ils le vendent de 10 à 15 euros le litre. Alors avec un litre, on met un litre dans 10 litres dans un arrosoir. On arrose 10 mètres carrés de jardin et c'est fini. Hein. Donc autant s'en faire 10-20 litres. C'est rapide à faire, ça coûte rien du tout.
Et en général, les produits du commerce ont des conservateurs.
En plus.
Voilà. La grande difficulté, effectivement, c'est la conservation. C'est un produit qui est vivant, qui va évoluer.
Il
y a plein de ferments, il y a plein de bactéries. Et en fait, c'est un produit qui ne va pas se garder très longtemps. Si ce n'est de le laisser vraiment au frais dans une cave, voire au frigo.
C'est un produit fermenté, donc c'est vivant.
Mais je dirais, lorsque vous avez un jus de fruit à la maison, vous l'entamez, il faut le boire dans les 4 jours. Et le purin, c'est presque dans cette thématique-là. Et comme les radis, tu disais, il faudrait en faire constamment.
Il faudrait rentrer dans un jeu.
Et c'est là où ça devient un petit peu la difficulté pour quelqu'un qui voudrait l'utiliser là sur un claquement de doigts immédiatement. C'est que la difficulté de conservation, c'est vraiment une grande problématique.
Ben oui, puis après, le jardin, il commence maintenant, là, en mars-avril. L'ortie, elle n'est pas forcément encore assez grande pour faire son purin maintenant.
Oui. Et c'est tout à fait envisageable de les produire en série pour, en autoproduction, je dirais, en autoconsommation pour une ferme. Mais sachant qu'il n'y a pas que les extraits fermentés d'ortie, il y a aussi la consoude, il y a la prêle, etc. Et il y en a vraiment des quantités. Et on découvre encore d'autres plantes qui ont des effets soit sur des maladies, soit sur des ravageurs, ou qui vont aussi bénéficier en interne pour la plante, pour la fortifier. Et tout ceci, c'est un savoir-faire qu'il faut pouvoir communiquer avec du matériel qui est peut-être simple, mais qui a besoin aussi d'évoluer. Voilà, ça c'est des points. Je pense qu'on pourra en parler de recettes ultérieurement, mais en tout cas, restons très attentifs par rapport à cette réglementation, à cet amendement de loi par rapport à la loi d'avenir agriculture, alimentation et de la forêt qui est en ce moment, du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Restons très très vigilants.
Ben merci Olivier, on va se faire une petite pause musicale, on va écouter la ballade comestible de Jacques Dutronc.
Génial.
Je crois bien que je l'ai dans le dos, une heure que je fais le poireau. Sans pas sur la berge, attendant cette asperge, asperge, asperge. Déjà 10 heures tout rond, à l'aiguille de mon oignon. Candidate, j'en ai gros sur la patate, moi qui me suis fait tout beau, même court sur l'haricot. Mais si elle vient pas du tout, demain je lui rentre dans le chou. On devait aller au théâtre, balancer des tomates, et après au ciné, on serait tapé un navet. Si je la réjouis, dirais-tu, peut-être fier de toi, l'es-tu. Si c'est comme ça, je vais solo dépenser mon artiche au café, éclusé au bar, les pastis et l'épinard.
Donc après la guerre de l'ortie et les explications vis-à-vis des PNPP, Jérôme, je pense que tu vas toujours nous parler de plantes. Ah, Gabriel n'est pas d'accord.
Je voulais juste rappeler qu'on a une émission qui était passée dans Pelmelbèche sur l'ortie, où Tessa nous avait parlé de l'ortie, notamment tous les aspects de l'ortie en fait. Donc vous pouvez la réécouter en podcast sur le site. Et voilà. Et aussi, d'ailleurs, il y a aussi la première émission de Pelmelbèche qui était sur le petit pois, sur le radis, que vous pouvez aussi réécouter. Voilà. Et
voilà.
Jérôme.
Voilà. Donc, il y a des émissions à écouter et réécouter avec des thèmes qu'on a déjà abordés. Donc, ça fait des compléments. Et donc, oui, je vais parler des plantes, mais le titre de ma chronique, c'est le titre d'un dossier de presse que je mettrai en ligne à disposition de tous les auditeurs et qui s'appelle « La santé naturelle en élevage menacée par le droit européen ». Effectivement, ça fait référence aux plantes. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, le titre est choquant et il me fait penser tout de suite à une chose évidente qui ne semble pas l'être pour les législateurs. La santé passe avant tout par l'alimentation. Et bien entendu, ce ne sont pas les éleveurs qui nous diront le contraire, d'autant plus ceux qui pratiquent l'élevage extensif. L'élevage extensif, à contrario, c'est le contraire de l'élevage intensif, c'est-à-dire qu'on offre le plus de place possible et de bien-être à l'animal. Et donc dans ce qui suit, je vais vous démontrer comment des personnes qui se nomment experts n'ont rien en commun avec la définition de ce terme. Je vais donc vous parler d'élevage et de plantes en lien avec leurs usages. Que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale, les plantes composent une part essentielle du régime alimentaire. Nous, on mange des légumes, on mange des végétaux, les animaux aussi. Elles sont utilisées comme condiments, aromates, mais aussi comme teintures avec les plantes tinctoriales, comme la garance par exemple, en médecine douce sous la forme de plantes séchées ou d'huiles essentielles par exemple. Elles sont de plus en plus plébiscitées par le grand public en recherche de plus de naturel au quotidien. L'agriculture biologique, par exemple, est en plein essor, même si ce n'est pas encore suffisant comme nous l'avons vu dans nos précédentes émissions. Toujours est-il que ce qui est naturel est au goût du jour en ce moment. Mais pour certains, cela représente un problème. Olivier, tu en as parlé tout à l'heure, là on va dérouler un nouveau panel qui va dans le même sens. Donc vous le savez peut-être, ou vous en avez entendu parler, que les plantes font l'objet de réglementations de plus en plus lourdes, et oui, vous en avez entendu parler, puisqu'Olivier en a parlé, et de cadres administratifs restrictifs qui les disqualifient. D'après les évolutions réglementaires, les produits végétaux ayant ou étant susceptibles d'avoir une action favorable sur la santé, ainsi que les compléments nutritionnels soutenant les fonctions physiologiques, entrent dans la catégorie du médicament à base de plantes et sont soumis à la nécessité d'une autorisation de mise en marché, ou plus communément appelé ou noté dans la presse AMM. Exigence disproportionnée qui élimine les produits et les producteurs naturels actuels. Et c'est ainsi que bon nombre d'extraits de plantes qui sont tout simplement retirés du marché. Il y a l'exemple de l'essence de lavande pour laquelle les producteurs se mobilisent afin qu'elle ne soit pas considérée comme un produit chimique. Il suffit de passer à Chamaloc, il y a un panneau qui dit notre essence de lavande, notre huile de lavande.
La lavande n'est pas un produit chimique.
Voilà. Et donc, c'est un véritable problème. Les plantes ne sont plus autorisées à la vente sans AMM du fait qu'elles sont considérées comme des produits chimiques ou comme des médicaments. Et c'est notamment le cas en élevage selon l'Europe quoi, et le projet ou ce règlement européen. Donc aujourd'hui, on trouve des plantes comme, alors accrochez-vous bien, le trèfle ou le plantain lacéolé ou l'avoine retirées du marché car considérées comme des compléments alimentaires pour lesquels une AMM est nécessaire. Alors je vais m'arrêter sur cette AMM car cela fait au moins 3 fois que je la cite et je pense qu'il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Une AMM est nécessaire pour tout médicament ou pour tout produit de synthèse afin d'être commercialisé. Ça se comprend, car il en va de la santé publique ou de la protection de l'environnement, mais aussi parce que le ou les produits en question ne sont pas d'origine naturelle. Bien entendu, il faut savoir que cela représente un coût. En général, ce coût est assimilé à un investissement, car d'une, il est élevé, et de deux, ceux qui y font appel sont le plus souvent des industriels qui, grâce à cette autorisation, vont tirer un bénéfice notable du ou des produits commercialisés par la suite. Par contre, il paraît aberrant d'avoir à demander une AMM pour les plantes précédemment citées. D'une part parce qu'elles ne représentent aucun danger pour la santé publique, et d'autre part parce que personne d'autre que les industriels possédant les moyens nécessaires ne serait en capacité de le faire. Ça, c'est une évidence même. Hein. Et c'est là que je veux en venir. Le fait que l'Union européenne adopte un règlement qui durcit l'utilisation des plantes jusque-là libres pour tout un chacun laisse entendre que les lobbies pharmaceutiques industriels cherchent délibérément à prendre un peu plus le contrôle sur la diversité patrimoniale de l'humanité. C'est exactement ça qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est d'autant plus scandaleux quand on sait que la diversité contribue à l'équilibre des êtres vivants, que ce soit animal ou végétal. Dans la nature, les animaux consomment spontanément telle ou telle plante en fonction de leurs besoins du moment. C'est valable pour les animaux sauvages ou d'élevage. De plus, les plantes qui sont retirées du marché selon le règlement européen, tel qu'imaginé, sont des plantes qui poussent dans les champs et dans les bois où les bergers font pâturer les bêtes. Alors, le berger sera-t-il un contrevenant à l'avenir si une brebis est prise sur le fait en train de croquer du plantain ou du trèfle sur son parcours ? Non, mais il faut rester sérieux un peu, c'est n'importe quoi ce que fait l'Europe. Là.
Mais c'est quoi cette affaire ?
Mais c'est quoi cette affaire ? Eh bien, c'est une affaire qui est bien réelle. donc, par contre, il faut préciser une chose, parce qu'il y a différentes catégories de plantes, et ça, c'est bien précisé d'ailleurs dans le dossier de presse qui sera à votre disposition. C'est que les plantes dont on parle ici sont celles qui ne représentent aucun danger pour leurs utilisateurs. C'est celles qu'on nomme les plantes médicinales peu préoccupantes d'utilisation traditionnelle et populaire ou plantes favorables à la santé des animaux. C'est donc les plantes de tous les jours, l'avoine, le trèfle et compagnie, ça peut pas être des plantes qui... Enfin bon, moi ça m'a assez scotché ce truc-là, quoi. Donc elles sont parfaitement connues et régulièrement consommées. Par contre, sont exclues les plantes médicinales préoccupantes ou techniques, dont l'utilisation doit être ponctuelle et réservée aux prescripteurs formés, et dont la production, le contrôle et la commercialisation doivent par sécurité être assurées par le secteur pharmaceutique. Il y a des plantes qui sont extrêmement toxiques dans la nature, et il faut quelqu'un, il faut des organismes, il faut des gens compétents pour effectivement les mettre en marché. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que l'on manque de savoir ou de compétences, et ça c'est... Voilà. Par contre, l'amalgame entre plantes toxiques et plantes non préoccupantes est utilisée en permanence pour éliminer ces dernières. Ça, c'est flagrant. Et d'ailleurs, toi, Olivier, tu en as parlé tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'industrie veut faire mainmise. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, dans le dossier de presse, AMM, à un moment donné, il se pose la question à savoir si c'est pas une autorisation de mainmise sur le marché.
C'est un autre acronyme, ça. Effectivement. Donc, on pourrait interdire les tomates, parce que
oui.
La tomate, c'est une solanacée, c'est une plante toxique.
Et oui, elle fait partie, mais... voilà, comme la belladone est une plante toxique, ça fait partie
terre.
De la même famille, la pomme de terre, hein, ces choses-là, l'aubergine, le poivron.
Beaucoup de choses peuvent être toxiques aussi en fonction des doses, de toute façon.
Oui, voilà. Ouais,
énormément
bien
de,
sûr.
De choses.
Hein. Mais oui, oui. Donc, quand on parle de plantes favorables à la santé, c'est des végétaux présentant très peu de risques dans les conditions normales d'emploi, au rapport bénéfice-risque très favorable, et dont l'innocuité est validée par une utilisation traditionnelle et populaire ancienne, confirmée par les données de la science, de la botanique alimentaire et médicale, et de la toxicologie. Voilà, ça c'est une petite définition qui est apportée dans le dossier de presse. Donc, les plantes et huiles essentielles utilisées dans un cadre curatif sont considérés par la réglementation actuelle comme des matières premières pharmaceutiques et leurs mélanges sont des médicaments vétérinaires qui doivent être pourvus d'AMM et normalisés. Cela est impossible pour les structures de production qui ne peuvent devenir des laboratoires. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les petites unités, les petites entreprises et autres ne peuvent pas, n'ont pas les moyens. Voilà.
C'est 40 000 euros au minimum par molécule.
Mais c'est énorme.
Par molécule.
Par molécule, donc une plante.
Voilà,
c'est un panel de molécules.
C'est un complexe de molécules, effectivement.
Et voilà. Donc le risque
Je dis, Dame Nature devrait être vraiment riche si on lui payait toutes les molécules qu'elle produit.
Et
40 000 euros par molécule produite.
Et oui,
si on lui donnait, elle aurait une caisse et elle serait super riche. Quoi.
Ouais. Et elle aurait de quoi redistribuer équitablement à l'ensemble de la population. Et chacun aurait son loisir de vie paisible, quoi, et naturel et normal, quoi. Donc, en fin de compte, c'est quoi ? Ben, y a des risques de pratiques clandestines et interdites par rapport à ça. Ça veut dire qu'on va désobéir, forcément, ça c'est obligé. Une circulaire du 24 août 2013 de l'ANSES. Donc, l'ANSES, vous en avez parlé, hein, j'ai raccourci, mais c'est... Si on donne le titre exact, c'est les initiales ne correspondent pas à son titre, mais pense pas. Donc c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Aliments et l'ANMV, l'Agence Nationale du Médicament Vétérinaire, précise que les plantes et les huiles essentielles, dans un cadre thérapeutique, ne peuvent en aucun cas être utilisées directement par les détenteurs d'animaux dans le cadre d'automédication. L'éleveur n'a plus aucun droit et aucune compétence reconnue dans ce domaine. Ça revient à nier les pratiques et les savoirs ancestraux acquis au fil des siècles. Bon sang de bonsoir, s'il y a bien quelqu'un le plus compétent qui soit en matière de santé animale, c'est bien l'éleveur qui vit tous les jours avec ses animaux.
De santé du bétail, de son troupeau. Quoi,
Sûr.
Et encore faut-il qu'il soit près de son troupeau et donc un élevage extensif.
Mais bien sûr.
Un berger est vraiment au contact de son troupeau.
Mais il dort presque avec, tellement il est bien souvent, ce sont des passionnés. Et voilà, quoi. Il y a autre chose. Les produits d'hygiène à base de plantes sont aussi concernés. Là, je pense en particulier au calendula utilisé pour les plaies, par exemple, ou le lavandin qui est insectifuge, hein, qui repousse les insectes. Mais ces produits ne bénéficient d'aucune homologation et donc ne sont logiquement pas utilisables en élevage. Donc tout ça, ça orchestre la mise en place de manière totalitaire, l'obligation de passer par des produits industriels, donc plantes transformées en laboratoire agréées, ou par la chimie, médicaments dûment autorisés à être mis en marché. Mais cette dernière option n'est pas sans risque quand on sait que ces services offrent en définitive une action peu ciblée, problématique des abeilles par exemple. Hein, on traite un champ contre un parasite et puis on fout en l'air toute une diversité qui est à côté, qui vient sur cette culture qui a été traitée. Donc en fait, en soi-disant, c'est la panacée, mais en fin de compte, on fout en l'air une partie de l'environnement en voulant traiter de façon très chirurgicale un problème en agriculture ou même dans les jardins. Hein. Il y en a qui utilisent des produits encore. Voilà, quoi.
Est-ce qu'il faudra une AMM pour le miel ?
Alors ça, c'est, je ne l'ai pas trouvé, ça, dans le... mais ce serait peut-être une question effectivement à poser aux eurodéputés. Ouais. Et donc, ces produits-là, donc les dégradations sur l'environnement, sont loin d'être nulles, mais aussi le fait que les produits issus de la chimie sont presque toujours rémanents, c'est-à-dire qu'ils réapparaissent à un moment donné là où on ne les sollicite pas. Et je fais référence, par exemple, aux pesticides qu'on retrouve dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, on en a parlé donc le mois dernier. On va faire une petite pause, je vais vous mettre une petite musique qui le titre est « La mauvaise herbe ». De Georges Brassens, et voilà, c'est plus pour le titre que pour le contenu de la chanson, mais mais voilà, ça m'a fait ça, je trouvais que le titre avait ce que je viens de dire là, et je continuerai par la suite, allait bien avec le sujet.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touchés. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Et voilà, j'ai réécouté les paroles et si en fin de compte elles collent très bien avec le sujet. Moi non plus j'ai pas envie de suivre le droit chemin, ça ne regarde que moi, mais c'est comme ça. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui se met en place en fait depuis une bonne dizaine d'années. Ça n'est pas tout neuf. Et pourtant, on l'apprend ou on commence à en parler aujourd'hui, et seulement si on sait écouter aux portes ou si on est dans les réseaux militants paysans pour l'occasion, puisque cela concerne en priorité l'élevage. Mais cela laisse sous-entendre de façon assourdissante que nous serons demain concernés par la même chose. Et c'est, je rejoins tout à l'heure ce que tu disais, Olivier, ça colle quasiment avec le même sujet sur les PNPP. Voilà, on commence aujourd'hui par les produits de l'agriculture et demain ce sera les produits de la vie courante qui seront cadrés de façon très restrictive et, voilà, et incohérente. Voilà. Bon. Et pour presque conclure, donc, je vous parlais d'experts au début. Hein. Eh bien, attardons-nous un moment sur leur rôle. Et là, je vais vous citer une partie du dossier de presse que j'ai consulté pour préparer ce sujet. Dossier de presse que, je rappelle d'ailleurs, sera à disposition de qui voudra bien sur la page, le site, la page de l'émission de ce mois. Alors, je vous laisse juger. Là, c'est de la lecture. Le règlement européen 230/2013, donc qui date de 2013, de nombreux extraits végétaux traditionnels deviennent non autorisés dans les aliments complémentaires. En mars dernier, la Commission européenne publie le règlement 230/2013 ayant trait aux substances aromatiques et apéritives utilisées en alimentation animale, seul cadre réglementaire actuellement utilisable pour les extraits de plantes. Ce règlement retire du marché plus de 600 plantes sous forme d'extraits végétaux et huiles ou d'huiles essentielles, dont de nombreuses plantes non préoccupantes qui sont très utilisées par les fabricants d'aliments complémentaires ou les éleveurs. De nombreuses erreurs scientifiques sont relevées dans ce texte, comme la suppression d'huiles essentielles n'existant pas, car non issues de plantes aromatiques au sens botanique du terme. Ceci montre le niveau de compétence en botanique des experts, entre guillemets, et les législateurs européens missionnés pour rédiger ces règlements. Et voici quelques exemples d'extraits de plantes ou d'huiles essentielles retirées du marché en tant qu'additifs aromatiques par le règlement européen de 2013. Ils ne sont plus utilisables dans les aliments complémentaires buvables pour les animaux. L'achillée millefeuille, la bardane, l'avoine, le curcuma, la prêle des champs, la gentiane jaune, l'aunay, le niaouli, le palmarosa, des menthes, le plantain lancéolé, la sarriette, la verge d'or, l'ortie, le trèfle, le serpolet, les camomilles, la reine des prés, le noisetier, le frêne, l'orge, le noyer, la luzerne. Et il y a des points d'exclamation, de suspension. Non mais vous imaginez le truc là.
La luzerne.
Oui, la luzerne. Hein. Donc soit un grand nombre de plantes d'utilisation traditionnelle et populaire ou d'utilisation courante en élevage, très favorable à la santé, indispensable pour les compléments nutritionnels. Notez aussi que nombre de ces plantes sont alimentaires pour les herbivores, la luzerne, car naturellement le trèfle, le plantain, les brebis mangent du plantain aussi pour se soigner, l'ortie, tout ça. Car naturellement présente dans les prairies, les parcours, ce qui rend leur interdiction d'utilisation techniquement injustifiable. Donc je disais tout à l'heure, hein, le berger sera-t-il un contrevenant ? Ou serait-ce la brebis qui devra apprendre à ne plus manger ce qui lui fait du bien quand elle a quelques soucis gastriques ? Non, vraiment là, on marche sur la tête une fois de plus. J'espère que c'est une fois de trop. Hein. Alors que le ministre de l'Agriculture a mis en place le plan éco-antibio, donc comme le éco-phyto, dont l'objectif est de diminuer de 25% en 5 ans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les méthodes alternatives naturelles qui permettraient de dépasser largement cet objectif sont radicalement entravées par la réglementation. Celle-ci est également en opposition avec l'objectif affiché par la récente loi d'avenir agricole de favoriser le développement de l'agroécologie. Le règlement de la communauté européenne de 2008 définissant le mode de production biologique prescrit l'utilisation en première intention de plantes médicinales et d'homéopathie, ce qui semble peu compatible avec des réglementations restreignant l'usage des plantes. Où est la cohérence globale dans ces actions antagonistes?
Heureusement, c'est le côté européen qui prévaut, donc c'est ça, il faudrait peut-être faire des choses, disons si au niveau national il y a des choses qui vont à l'encontre du niveau européen. Peut-être qu'il y a des moyens de pression à ce niveau-là.
Oui, à l'encontre, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des actions qui sont contradictoires, en tout cas. Et moi, ce qui me fait peur dans ce règlement européen, c'est que bien souvent la France l'applique en le durcissant, en durcissant les règlements européens. Mmh. C'est-à-dire qu'elle elle verrouille un peu plus. Voilà.
Donc où elle se contredit parfois elle-même. Et je pense notamment à la loi sur l'eau votée en 2006. Avant même les Grenelles,
oui.
Donc qui visait à réduire déjà les pesticides. Oui. L'INRA avait déjà défini, et ça c'est, je dirais, c'est super, avant même le Grenelle, que de réduire de 40% l'usage des pesticides sans nuire au rendement dans l'agriculture conventionnelle, c'était faisable.
Oui.
Donc voilà, comment protéger l'eau alors qu'on favorise toujours l'utilisation des pesticides ? Eh bien, il y a un non-sens, il y a deux règlements qui s'opposent.
Exact.
Et lequel va fonctionner le plus ? Et
voilà. Ben voilà. Pour plus d'informations, il y a donc un site, Notre Monde Vivant, donc qui est en anglais, www.howlivingworld.eu. Donc le lien sera sur la page d'émission, développe la problématique de la confiscation des plantes et des produits vivants et propose de signer une pétition et de la faire circuler. Donc on mettra le lien donc sur la page d'émission. Le collectif Ici Vie. Alors Ici Vie, ça veut dire initiative citoyenne pour l'impératif du vivant et de l'écologie. Demande la reconnaissance par un statut allégé et ouvert du caractère populaire inaliénable des plantes médicinales d'utilisation traditionnelle. Donc ça va dans le même sens que
ça,
pour les
ouais.
PNPP.
C'est un collectif français. Et Notre Monde Vivant, tu sais d'où ils sont ?
C'est un collectif qui est européen.
Européen,
ouais,
d'accord.
Qui est européen. Le site est en français, en anglais, peut-être en allemand, en allemand aussi, je crois.
Okay.
En tous les cas, le site, l'adresse, elle est en anglais, mais le site est consultable en plusieurs langues. Donc, le collectif Ici Vie demande... j'en ai déjà parlé, hein, du statut allégé. Et il propose aux éleveurs et aux professionnels de l'agriculture qui désapprouvent les entraves réglementaires à l'utilisation des plantes favorables à la santé et veulent affirmer la prise en compte des problématiques écologiques pour le monde agricole et de l'élevage de rejoindre publiquement le collectif Ici Vie en demandant que leur nom soit publié dans la liste des co-signataires sur la page du collectif du site, donc je le rappelle www.howlivingworld.eu, avec une courte définition de leur activité professionnelle, par exemple GAEC X, élevage de vaches limousines en conventionnel, avec entre parenthèses la région d'origine, ou Michel et Annie X, éleveurs laitiers en agriculture biologique avec la région entre parenthèses, ou Structure X, définition, et la région entre parenthèses. Donc, et c'est là où c'est intéressant, Structure X, c'est-à-dire que toutes les structures, qu'elles soient même associatives, comme par exemple UMIC, pourraient être signataires de ce mouvement pour signifier auprès de l'Europe qu'il y a aussi des collectifs non agricoles qui s'intéressent à cette question-là et qui aimeraient avoir accès, continuer à ce que l'accès libre à la diversité le reste, quoi, hein, tout simplement. Et pour participer au collectif, il faut être tenu au courant des informations, actions et réunions. Il y a une adresse courriel qui est à disposition. Elle sera aussi sur le site, la page du site de l'émission. Et il s'agit de contact, donc c'est tout en minuscules, @ourlivingworld.eu. Voilà. Et il y a aussi sur Internet, on trouve sur le site de libération.fr, du 18 janvier 2014, un article qui est intitulé « Des plantes pour soigner les bêtes, une pratique menacée ». Et ça, pour finir, ça me rappelle que dans la Drôme, on a eu un cas où l'administration est venue contrôler une éleveuse, et ça s'est passé à Bordeaux, et lui ont signifié qu'elle allait avoir des soucis parce qu'elle utilisait de l'homéopathie, de l'aromathérapie. Donc elle avait ça dans sa pharmacie pour son troupeau de brebis, alors qu'elle n'avait pas d'ordonnance. Et je pense que les services de l'État, notamment la DDPP, la Direction pour la Protection des Populations, anciennement la DSV, les services sanitaires et vétérinaires, s'appuyaient justement sur ce règlement qui dit que aujourd'hui l'homéopathie, tout ce qui est extrait de plantes et autres, est considéré comme des médicaments. Il faut une homologation, il faut une autorisation de mise en marché, il faut une ordonnance vétérinaire pour pouvoir l'utiliser, alors que c'est en vente libre dans les pharmacies et que nous-mêmes, pour se soigner, on peut y accéder librement. Donc voilà, donc il y a encore un coup de boutoir qui est donné par les lobbies industriels dans les couloirs de l'Europe, dans les couloirs des ministères des différents pays, pour priver, pour fermer, restreindre encore l'accès à ce qui est à ce qui voudrait revenir au galop, c'est-à-dire le naturel, quoi.
Voilà. Donc là, là, on a parlé du jardin, on a parlé de la santé animale, et effectivement, il y a le même sujet sur la santé humaine.
Ah, mais complètement. Ça, on va être, on est derrière, quoi. Là, c'est sûr que c'est l'arbre qui cache la forêt, ça.
Ok. Et alors, merci beaucoup, Jérôme. On va regarder tout ça. Et qu'est-ce qu'on a proposé à l'agenda là en avril?
En avril, moi, pour continuer, donc un peu sur le même thème, il y a le 17 avril qui est une date historique depuis 1996. C'est la Journée internationale des luttes paysannes. Vous trouvez plus d'informations sur viacampesina.org. J'ai pas trouvé de manifestation organisée sur la Drôme, mais il y en a un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Alors, le 17 avril, il s'est passé quoi? C'est il y a 17 ans, il y a 21 militants sans terre qui ont été proprement assassinés par les milices des gros propriétaires terriens. Donc, c'était en 1996, tout ça parce qu'ils militaient pour récupérer leurs terres qui leur étaient spoliées par les gros investisseurs et les gros propriétaires d'Hacienda. Voilà.
C'était en Espagne?
Non, c'était au Brésil.
Au Brésil.
Au Brésil, ouais. Voilà. Donc 21 militants assassinés. Depuis, c'est devenu une journée internationale de lutte des luttes paysannes. Et cette année, la viacampesina.org appelle à se mobiliser autour du thème des semences paysannes pour réclamer l'accès libre à la diversité des semences. Voilà. Donc le 17 avril, n'hésitez pas à appeler les structures départementales pour savoir si éventuellement un événement est organisé dans le département ou la région. Voilà pour l'agenda de mon côté.
Alors moi, de mon côté, je ne vais pas parler d'agenda, je n'ai pas de date à proposer, mais par contre, citer le site internet de l'ASPRO PNPP, ASPRO, ASPRO-6PNPP.org. Et le site internet des les amis de l'ortie, tout attaché, .fr, qui est très intéressant, qui est une mine d'informations justement sur les plantes à utiliser, donc les extraits fermentés et autres produits naturels pour le jardin, mais aussi pour la santé animale et humaine.
Ok, une autre chose à annoncer, donc c'est des ateliers populaires d'herboristerie, la Bona Fama, qui ont lieu à Die. Donc la Bona Fama en latin, bien sûr. Ce sont des ateliers de recherche et d'échange autour des plantes et remèdes médicinaux naturels, et donc qui ont lieu un mercredi sur deux dans les locaux de Trajet Spectacle à Die, donc rue Joseph Reynaud, et une adhésion à prix libre est demandée. Les prochains ateliers auront donc lieu en avril, le mercredi 16 avril et le mercredi 30 avril de 13h à 17h30. Voilà, donc c'était Pêle-mêle Bêche sur Radio Diwa 107.5, et vous pouvez nous écrire et nous retrouver sur internet. Alors nous écrire à pelmelbèche@gmail.com et retrouver toutes les émissions en podcast sur le site de Radio Diwa, rdwa.fr. Et voilà, vous êtes bienvenus à nous rejoindre.
Ben oui, n'hésitez pas à nous communiquer vos envies de sujets que vous
et à participer aussi.
Apporter. Et si vous avez envie de participer, eh bien, n'hésitez pas à vous faire connaître, et puis on vous accueillera très volontiers dans le studio où il règne à chaque fois une ambiance fort sympathique. Enfin, moi, en tout cas, j'apprécie.
On s'amuse
fortement.
Beaucoup.
On s'amuse bien, voilà. On se fait un peu des petits signes, des machins, et puis voilà, et c'est fort sympa. Et là, c'est pas la bonne musique, là. Voilà, allez, là, c'est mieux, là.
Allez, ciao tout le monde.
C'est parti.
Merci, au revoir.
Salut, chers auditeurs, à bientôt.
Thank you.